Merci de m'avoir invité, merci à tous, merci de l'accueil. Et c'est vrai qu'il faut souligner que c'est le seul endroit au monde où il y a un musée Freinet qui... Enfin, il y en a un à Rouen, mais qui est fait de cette façon ici, dans une école. C'est vrai que c'est très important, parce qu'on se pose vite la question, quand on est dans ces pratiques, on se pose assez vite la question des archives. Par exemple, en ce moment, je suis avec l'école de la Neuville. Alors, c'est un des grands bâtiments, l'école de la Neuville, heureusement. Donc, nous sommes en train de numériser tout ce qu'on a pu récolter autour de Fernand Houry et de l'histoire de la pédagogie institutionnelle. Ben, je peux vous dire que c'est très important d'avoir une place, un lieu, et de pouvoir commencer à classer, on va dire, historiciser un peu ces événements qui, effectivement, n'ont jamais de fin. Ont toujours eu un commencement, mais n'ont jamais de fin. Un peu comme tu le disais, j'ai beaucoup voyagé ces trois dernières années, surtout en Amérique latine, mais aussi ailleurs. Et je suis étonné de voir la force que gardent ces pédagogies, disons actives pour le moment. Ces pédagogies actives, alors de façon multiple, parce qu'il ne faut pas, je l'ai dit là dans ce que je vais vous avancer, je reprends déjà le terme, il ne faut pas cultualiser les pédagogies. Alors c'est vrai qu'il y a des figures, et des grandes figures, bon, Célestin, Élise Freinet, Fernand Houry, d'autres, mais c'est vrai qu'ici, dans le mouvement Freinet et dans les mouvements de pédagogie institutionnelle, il y a des gens d'ailleurs qui n'ont presque jamais écrit, contrairement à ceux qui sont ici, et qui pour autant ont une puissance de travail et de réalisation dans les pratiques à l'école, qui chaque fois, moi, me laisse pantois. Alors, ce que je vais essayer de vous dire, je vais prendre à peu près une demi-heure pour qu'on ait le temps de parler, de répondre, de discuter dans la demi-heure ou les trois quarts d'heure qui suivront. Je vais m'attarder sur ce qu'on m'a posé, mais compte tenu du public, je vais être peut-être un peu plus didactique. Des techniques freinées à la pédagogie institutionnelle, ce qu'on peut dire autour de ça. Dans l'introduction, donc, je reviendrai là-dessus, puisque c'est vrai que c'est un long débat dans nos mouvements. Un long débat avec... c'est pour ça que je suis parti sur le culte et les figures, parce qu'il ne faut pas s'enfermer là-dedans. Moi, quand j'ai connu Fernand Houry, fin 66, le premier livre de pédagogie institutionnelle venait de sortir. Je l'ai lu en un jour et demi. Et le samedi matin, je sonnais à sa porte, qui était sa porte, la porte des Houry, était à 850 mètres, à peine un kilomètre de l'université de Nanterre. Et j'habitais à côté aussi, moi. Donc, j'ai fait connaissance avec lui et c'est vrai que dans les premières discussions qu'on a pu avoir, c'est vrai qu'il y avait encore beaucoup de problèmes politiques. C'était une époque politique assez forte, vous le savez. Donc il y avait des distinctions. Est-ce que je suis encore Freinet? Est-ce que vous êtes Freinet? J'ai jamais entendu Fernand Houry dire autre chose. Il s'inscrivait complètement. C'est un arbre à la fois généalogique mais aussi épistémologique. La pédagogie institutionnelle, les pédagogies institutionnelles, qu'elles soient autogestionnaires ou psychanalytique, on va y venir, elles s'inscrivent dans la démarche et dans le champ du mouvement Freinet. Les techniques Freinet, c'est une pensée de base qu'il faut reprendre dans l'idée que j'avance souvent, moi, mais qui est un terme aussi de Fernand Houry de l'époque, la transposition. C'est-à-dire, moi, je vois plus large, c'est-à-dire, j'ai toujours essayé de penser ces techniques-là, pas seulement à l'école, dans les centres de loisirs, dans la politique de quartier. J'ai été conseiller municipal et dans la politique de la ville. Parce que ce sont les mêmes choses, pour moi. Donc, vous voyez, l'écran que je mets devant vous, c'est celui-là. Alors, toujours dans l'introduction, on a organisé en novembre, c'était le week-end de la Toussaint, donc ça a surpris beaucoup de gens, un colloque, hommage à Fernand Houry, qui vient de donner un livre qui est sorti il y a 8 jours, « La pédagogie institutionnelle de Fernand Houry » aux éditions Matrice. Alors, ce colloque s'est tenu à Nanterre et il a réuni 350 personnes de France, de Suisse, de Belgique, du Portugal, qui sont venues pendant le week-end de la Toussaint, sur leur temps, y compris leur temps personnel, puisqu'il y a eu des négociations, des discussions, des enseignants, y compris des 45% de professeurs des écoles à la stupéfaction générale. Quand même, qui, sur un week-end de la Toussaint, sont dans l'université de Nanterre. 350 personnes, c'était pas mal. Ça a été d'ailleurs un week-end et un colloque tout à fait passionnant. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez vous procurer ça à partir de cette semaine, ça va partir dans les librairies et un peu partout, oui, dans les 15 jours qui viennent. Alors, je vais vous lire une citation de Fernand Houry qui va peut-être me permettre de commencer. « Je ne désire ni vous faire, ni faire pour vous, ni vous faire faire quoi que ce soit. Et je ne désire pas vous motiver. » Ça, c'était Fernand Houry. Assez radical, hein, sur l'abord du personnage, hein, du bonhomme, comme il disait des fois. Alors, la première fois que je l'ai vu, il n'avait pas ouvert la grille, je sonne, et à travers la grille, il me dit « Vous êtes qui ?» Je lui dis « Jacques Pain, j'étais étudiant à l'université de Nanterre, je viens de lire le livre, je voudrais vous poser des questions. » Il me dit « Ah, encore un universitaire ?» Et il a mis quelques secondes à ouvrir la porte quand même. Il était comme ça. Alors, je vous ai parlé des éditions Matrice, j'en profite un peu. Les éditions Matrice, on les a montées, elles ont 25 ans aujourd'hui. C'est une édition associative qui a repris tous les titres de la pédagogie institutionnelle. C'est moi qui l'ai monté avec 50 à 60 personnes dans un réseau, dans une recherche comme ça, spontanée, de l'intitulé. Et on est arrivé à Matrice. C'est compliqué, Matrice, parce que ça veut dire matériel de transfert, institution et centralité. Alors oui, je vous le dis, mais juste comme ça. Parce que tout ce qu'il y avait là-dedans. Puis on a trouvé que le mot matrice, c'est, vous savez, c'est mathématique, c'est sexuel, c'est biologique. Il y a toute une dimension dans Matrice qui fait que cette édition, on est trois à s'en occuper et qu'on atteint les 100 000 livres vendus sur à peu près 120 titres en 25 ans. Bon, nos entrepôts sont à droite ou à gauche, dans des écoles, enfin des écoles, à l'école de Lanneville, etc. Et pour continuer dans l'information, après ce colloque et pendant ce colloque, un film a été tourné. Alors, si vous voulez aller sur Internet, vous trouvez beaucoup d'infos sur la pédagogie institutionnelle et vous trouverez sur l'école de Lanneville. Plusieurs films sont en train d'être tournés. Il y en a un qui vient de sortir déjà, c'est Dolto et l'école de Lanneville. Il y en a un deuxième qui sort en septembre-octobre qui s'appelle Voyage à Vienne, ça va être ça le titre. C'est l'année où l'école est allée, tous les ans ils vont dans une capitale européenne ou dans une grande ville européenne. Et cette année-là, ils étaient à Vienne chez Freud, avec les élèves. Donc ils sont à Vienne, on voit ça, la comédie musicale, etc. Et l'année dernière est sorti un grand film qui s'appelle Parole, l'héritage d'Olto, qui est passé dans les salles d'ailleurs, que vous pouvez trouver aisément. 25 €, je crois que ça vaut en DVD maintenant, avec beaucoup de bonus pédagogiques, comme on dit. Et enfin, le dernier film qui est en train de se faire, qui sort en décembre, c'est Fernand Houry. Donc il y a un film qui va faire 2 heures, 2 heures et quart, avec 4 heures de bonus pédagogiques sur Fernand Houry et la pédagogie institutionnelle, décembre. Donc, vous voyez, à la fois, on ne perd pas de temps. Et tout ça atteste de la volonté que nous avons de faire finalement ce qu'on nous demande, c'est-à-dire de faire connaître et savoir, ce que je dis toujours dans mes cours depuis 35 ans à l'Université de Nanterre, les réponses aux problèmes qu'on rencontre dans la société d'aujourd'hui, on les a, allez, depuis 1 à 2 siècles. Et en particulier depuis l'entre-deux guerres mondiales et l'après-deuxième guerre mondiale. Alors, puisque je suis dans la présentation de livres, après tout, on commence comme ça, on y va. Sylvain Connac, ça vient de sortir aux ESF dans la collection Mérieux, là. Apprendre avec les pédagogies coopératives. Démarches et outils pour l'école. Sylvain Connac est un instituteur de Montpellier, à la Paillade, un quartier difficile. J'étais dans sa thèse à Montpellier, il y a 3 ou 4 ans, je ne m'en rappelle plus. Il a passé une thèse de sciences d'éducation. Donc, il est docteur de sciences d'éducation. On le voit dans des films qui ont été tournés sur les pédagogies actives qui sont sortis il y a à peu près 1 an et qui sont passés sur la 2, je crois. Et ce livre est vraiment très bien fait parce qu'il est très pratique et en même temps, il vient de sa thèse. Donc, il y a les fondements théoriques, mais il y a aussi l'ensemble des outils que je vais évoquer, mais très rapidement. C'est une école, de 10 classes. Et vous avez les 10 classes qui se sont mises, donc toute l'école, à cette pédagogie dite institutionnelle. Et quand je parle de pédagogie institutionnelle, je répète que je me situe complètement dans le tronc commun freinet. Soyons bien d'accord. Donc, moi, j'ai dépassé il y a très longtemps, depuis ma rencontre avec Fernand, qui d'ailleurs n'était pas là-dessus, mais c'était l'époque des dissensions, des distinctions, des « oui, non, c'est pas tout à fait ça, c'est autre chose ». Faut pas s'y enfermer, c'est terminé pour moi, ça, il y a longtemps. Et donc, toutes ces pédagogies vont ensemble. D'ailleurs, qu'elle se revendique de l'autogestionnaire avec Jean Le Gall ou Pierre Yvin, par exemple, ou d'autres, ou qu'elle se revendique de la psychanalyse, ou qu'elle se revendique ni de l'une ni de l'autre, on est quand même sur la même origine. Et la même pensée avec des nuances, hein, il faut le reconnaître, des nuances. Je crois que si on a en discuté après, peut-être dans le débat, ce qui sépare parfois les pédagogies, ce qui les sépare parfois, mais du point de vue des discussions, on va dire, c'est pas tellement l'éthique, c'est plutôt l'idéologie. C'est-à-dire qu'il y a un moment, bon, c'est simple, hein, vous le savez, c'est-à-dire on voyait assez bien dans les courants, il y a 35 ou 40 ans, ce qui participait de l'extrême gauche, on va dire, de la lignée communiste, et puis ce qui participait tout simplement de la gauche critique, hein, ou de l'anarcho-communisme. Par exemple, à l'époque, ça se disait comme ça. Fernand Houry disait « Je suis instituteur, demeuré instituteur, et je suis anarcho-communiste. » Dans les tout premiers temps où j'ai connu. Mais c'était l'époque, hein, c'était l'époque, avant les caravanes ouvrières, une manière de penser, une manière de faire, sur laquelle il faut peut-être revenir, parce que je disais l'autre jour, j'étais avant-hier à Bruxelles, à la communauté française, dans un petit groupe qui essaye de penser l'accrochage et le décrochage scolaire, et bon, ils arrivent à quoi ? Aux pédagogies institutionnelles, évidemment. Donc je disais qu'il fallait s'atteler de très près à pas tellement convaincre ni les enseignants, ni finalement les parents, mais à faire que les techniques et les structures de travail soient à la mesure du défi qui nous est lancé dans la mondialisation. Parce que vous alliez au Brésil, que vous alliez en Guyane, au Chili, en Guadeloupe, Martinique, dans les Dom-Tom et ailleurs, Amérique centrale, vous allez toujours tomber sur les mêmes problèmes. Dans 15 jours, j'ai une soutenance de thèse haïtienne. J'ai des gens qui travaillent sur les enfants des rues un peu partout dans le monde. Je peux vous dire que le problème est le même. Et il va nous arriver très vite, aussi fort qu'ailleurs. Alors voilà, maintenant ce que je voudrais vous dire, ça va en 4-5 temps, c'est bon, énumérer peut-être quelques présupposés ou quelques principes finalement qui fondent la démarche, hein, et qui essayent de lier cet ensemble de choses. Alors, je vais le contexte, ensuite, quelle pédagogie, ensuite, que faire avec cette pédagogie, ensuite, je viendrai sur les techniques Freinet, la pédagogie Freinet, et la pédagogie institutionnelle plus précisément, puisqu'à l'époque, vous savez, on a beaucoup jonglé avec les définitions de termes, et je me rappelle d'un congrès à Nanterre, du mouvement Freinet, où il y a un débat d'ailleurs avec Jean Le Gall, moi et quelques autres, où on... Alors, pédagogie Freinet, technique institutionnelle, PFTI, c'est ce que disait Jean Le Gall, par exemple, PFTI, pédagogie Freinet, technique institutionnelle, et nous, on disait TFPI, technique Freinet, pédagogie institutionnelle, vous voyez. Alors, c'était toute une histoire à l'époque, c'était ça. On pouvait en parler pendant 3 heures, quoi, qui sait. Alors, il fallait commencer par PF, ou par TF, ou par PI, enfin, vous voyez. Je crois que maintenant, le problème n'est plus là, parce que la mondialisation a radicalisé tout ça, hein. Table rase. Quand vous êtes... je parlais avec Hubert Montagnier au colloque de Nanterre. Hubert Montagnier, le psychologue de l'enfant, vous savez qu'il s'oppose comme un forcené à la politique de l'enfance de ce gouvernement, et je crois qu'il faut le soutenir. Montagnier a été invité il y a 1 an et demi à Rio de Janeiro, à la plus grande favela du Brésil. Du Brésil, oui, du Brésil. La Rocinha. La Rocinha. Et la Rocinha, c'est la favela et l'encadrement mafieux de la favela qui l'invite. Écoutez-moi bien, pour demander quoi ? À Hubert Montagnier, lui proposer de faire l'école qu'il a envie de faire, comme il rêve l'école qu'il rêve, en tant que psychologue de l'enfance spécialisé, en lui donnant tout l'argent qu'il veut dans la favela de la Rocinha. Vous nous faites une école pour nous. Vous aurez tout l'argent que vous voulez. Il a un peu hésité, évidemment, parce que... Il était accompagné par le chef de la favela, qui était lui-même encadré par 5 jeunes armés de Kalachnikov. Bon, l'ambiance était là. Et il me disait, bon, j'ai un peu hésité, mais il a accepté d'en faire une 50 km plus loin. Hein. Et je vous le dis parce qu'il va y avoir, il y a une ville socialiste de la Haute-Corse, une petite ville de la Haute-Corse, qui vient de signer et qui démarre avec Montagnier le projet d'ouverture pour 2010 d'une école Montagnier en Corse, en Haute-Corse. Et vous savez que Montagnier, enfin, si vous ne le savez pas, je le dis vite, Montagnier fait très attention à tout ce qui tourne autour de l'enfant. un peu comme les grands pédagogues de Montessori à De Croly ou d'autres, ou Freinet, c'est-à-dire à quelle hauteur on se situe, comment sont les sièges, est-ce qu'il y a des plantes vertes, est-ce qu'il y a un environnement, où sont les parents, est-ce qu'ils sont accueillis, est-ce qu'il y a à peu près tous les services dans l'école, est-ce qu'il y a quelque chose dont on pourrait rêver, qu'on connaît quand on est dans le mouvement Freinet. Alors ça va peut-être se faire en Haute-Corse, et il y a un projet près de Pau en ce moment. La ville de Pau a demandé une consultation aux montagnés. Si on y arrivait, ça serait bien. Y compris, je mets là-dedans, Freinet, le mouvement Freinet et ses pédagogies. Hein. Alors, je disais, double contextualisation, premier point. Je crois que pour comprendre ces pédagogies, d'où elles viennent, là, je reprends un petit peu mes cours que j'ai fait pendant longtemps à Nanterre, c'est vrai qu'il ne faut pas croire que c'est arrivé hier. Et qu'en même temps, c'est vrai qu'il y a des gens, j'ai dit, des figures. Freinet, un matin, ou d'autres, mais jamais seul. Il faut démystifier cette idée du génie solitaire qui invente sa pédagogie un matin de bonne heure. Il y a toujours 8, 10, 15, 50, 500 personnes autour. Et ça va très vite. Les 500 écoles, je crois que c'est au bout de 10 ans, ou 8 ou 10 ans chez Freinet, que ça se produit. Mais si on remonte plus avant, c'est ça que je voulais dire, dans la double contextualisation, faire l'école autrement, c'est une idée, vous le savez sans doute, qui occupe la pensée, mais pas seulement des pédagogues, des politiques, depuis 3 siècles. Dans toute l'Europe et ailleurs. C'est-à-dire que vous remontiez à Comenius, vous passez tout le 19e siècle en particulier, pour arriver au mouvement des écoles nouvelles anglaises, par exemple. Il y a tout ce mouvement qui, fin du 19e, début du 20e, conditionne et fait émerger ce qui sera plus tard les pédagogies Freinet, institutionnelles et autres. Cet ensemble de faire l'école autrement, cette question faire l'école autrement, se pose d'une manière radicale et toujours par opposition à la guerre. Chez Freinet, c'est très clair, pas seulement chez lui. Par rapport aux révolutions qui ont eu lieu et par rapport à des pensées radicales, des pensées révolutionnaires, ou des pensées plus réformistes. J'ai longuement discuté à Genève, souvent avec Daniel Hamelin, de la correspondance Ferrière-Freinet, qu'il n'a jamais pu publier parce que la famille Ferrière s'est opposée à certaines... il ne voulait pas que certaines des lettres soient publiées. Mais c'est vrai que Ferrière, par exemple, n'a rien à voir avec Freinet sur le plan... idéologique. Et pourtant, ils s'entendaient très bien. Parce qu'en fait, je parlais de tronc commun tout à l'heure, 19-20e siècle, ce qu'on voit s'installer, c'est un tronc commun des écoles différentes. Enfin, de l'école publique, mais différemment pensée. Et deux, une école qui va, je vais le dire comme ça, qui va se recentrer, et il ne faut pas avoir la déformation qu'on connaît, se recentrer pas tellement sur l'enfant, je vais vous le dire, sur le sujet, à mon avis. Se recentrer et se centrer sur le sujet, ça veut dire quoi? C'est là qu'on va voir plus tard arriver à la psychanalyse. C'est-à-dire que la grande attention de ces pédagogues, entre guillemets, mais j'y mets aussi bien... J'ai suivi un moment des écoles en Belgique, là, des écoles Jean Bosco. J'y mets Jean Bosco. Je ne me pose pas de problème de... Dans un premier temps, de... On va dire d'étiquette. Je regarde ce qui se fait. D'accord? Alors, ça correspond à des choses très simples qu'il faut dire comme ça, qu'on voit émerger par Jean Houry maintenant beaucoup dans la psychothérapie institutionnelle et dans les mouvements que vous avez vus sur Internet. Hein. J'étais dans le petit groupe qui a lancé l'appel des appels. On était 10. C'est parti du colloque de Nanterre que je vous ai cité tout à l'heure. C'est moi qui en ai parlé le premier, avec les 4 qui étaient là. On en a parlé au micro dans la conclusion du colloque. On a dit qu'il faudrait faire un appel des appels parce que maintenant, il faudrait fédérer un peu. Tout ce qui participe de l'opposition, et retournant la question, ce n'est pas tellement une affaire d'opposition, c'est une affaire de points communs et de lignes éthiques communes, humanisées, et peut-être qu'on fait commencer, hominisées, c'est peut-être que le début, et par conséquent, si on reprend les idées, alors là, effectivement, aussi bien de Ferrière que de Claparède, c'est-à-dire institutionnalisées, mais institutionnalisées sur mesure. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un des premiers textes fondateurs de la pédagogie institutionnelle, c'est Jean Houry, et non pas Fernand qui l'écrit. C'est Jean Houry qui a donné la définition de la pédagogie institutionnelle en 1958, le psychiatre. Il connaît bien Fernand, il est intervenu, il connaît bien Freinet. Il était en 1958 au congrès Freinet, c'est là qu'il donne la définition de la pédagogie institutionnelle. Et quand il donne cette définition, on ne cite pas souvent ce qu'il y a avec, il y a 10 lignes dans lesquelles il dit... Il faut sortir de ces écoles massives qui ne tiennent jamais compte des enfants, un peu comme Dolto le dit d'ailleurs, mais les prennent pour des élèves. et qui sont construits et pensés sur le modèle des camps de concentration. Voilà ce qu'il dit, carrément. 52. Alors, c'est peut-être un peu fort. Aujourd'hui, on se dit, mais qu'est-ce que c'est peut-être un peu fort. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que ça soit trop fort. C'est dans le concentrationnaire qu'on oublie le sujet. Alors ça, c'est le premier point. Et quand je dis institutionnalisé sur mesure, vous allez voir que je veux dire que faut peut-être, bien sûr, on a des idéaux, on a une politique d'ensemble à tenir, des prises de position nationales et internationales à prendre. Mais depuis le début, moi, ce que j'avais compris chez Freinet, ce que j'ai compris chez Oury et chez ses pédagogues, j'étais là-dedans, sans doute par mon orientation personnelle, assez vite, c'est que on ne fait pas la révolution après 5 heures. Hein. Oury disait ça tout le temps. Bon, alors, j'ai été secrétaire syndical, secrétaire de cellule, j'étais longtemps, 10-15 ans au PC, mais je disais aux gens ce que je vous dis là, c'est-à-dire, vous faites quoi pour changer les choses dans votre classe, là, dans votre quartier, et ce soir en rentrant chez vous, et demain matin au marché, il se passe quoi? Et installer à Nanterre, par exemple, au Pâquerettes, c'est-à-dire, à 1 km donc, de chez Oury, une démarche de ce type avec un journal de quartier, des kermesses qui peuvent donner lieu à peu près la même mobilisation que ce qu'on connaît dans des rencontres inter-écoles autour de ces techniques. Où est la différence? Alors, deuxième point, je crois que ce qui est important dans la pédagogie Freinet et dans les pédagogies institutionnelles au sens large, j'aime bien le mot, moi, institutionnel, hein, tomber dedans, là, le mot institution m'a toujours beaucoup plu, j'y reviendrai. C'est qu'on est à la recherche d'une pédagogie du problème. C'est-à-dire que, plutôt que de se concentrer, je crois que c'est un truc qu'il faut bien comprendre, c'est un choix, plutôt que de se concentrer sur l'enfant en difficulté, on va se concentrer sur la difficulté de l'enfant. D'accord? Ça veut dire qu'on va déplacer le premier angle de vue. J'y reviendrai, sur la structure et le problème. Et, comme le dit Jean Oury dans un autre texte repris par Fernand dans plusieurs livres, la première des choses, il prend la comparaison, ça c'est Jean Oury, il prend la comparaison de l'hôpital, là, il reprend une citation de Toscaliès. Il dit, quand vous faites une opération à l'hôpital, il faut que là, on le sait aujourd'hui, on le sait bien, il faut qu'il y ait de l'asepsie. Parce que vous soignez quelque chose, mais vous attrapez autre chose. Donc s'il n'y a pas de l'asepsie, si on n'a pas bien nettoyé la salle d'opération, c'est-à-dire transposé à l'école, dans le quartier ou ailleurs, si on n'a pas fait une politique humaine, s'il n'y a pas une politique de relations humaines, s'il n'y a pas un accueil des personnes, un accueil du sujet, on voit bien ce qui se passe avec la politique actuelle, hein, eh bien s'il n'y a pas cet accueil du sujet, comment vous voulez opérer au sens large? Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'ordre de l'éducatif? On fait rire, et les familles, et les jeunes. Donc c'est cette idée de... qui était évoqué à Bruxelles, puisque j'y étais donc avant-hier, pour une raison simple, c'est que j'étais conseiller technique un peu pendant un an et demi là, d'un grand groupe qui a travaillé sur... qui a fait des recherches sur le... Alors, ils ne veulent pas parler de décrochage, ils parlent d'accrochage et de bien-être à l'école. Et qu'est-ce qu'on a mis à jour? Ça, j'avais été dans ce truc, parce que je connais bien les gens là-bas, et on m'avait demandé de venir, parce que pour la première fois, au lieu de se centrer, c'est un peu ce que je suis en train de vous dire, sur, bon, il y a combien d'enfants, il y a combien d'adolescents qui ont décroché, alors c'est dans 4 villes de Belgique, 4 régions belges, il y a combien d'enfants qui ont décroché, l'idée c'était, il y a combien de dispositifs qui s'occupent de ces enfants. Et la recherche visait en un an à faire l'analyse de ces dispositifs et à voir quelle synergie mettre en place pour qu'ils travaillent ensemble. Du travail social à l'école. Ah ça, ça a été assez passionnant, parce qu'on voit très très bien à quel point il y a une espèce de... Enfin, c'est partout pareil, hein, de rupture, ou comme ils disent maintenant, comme disent les spécialistes de la ville, de la mondialisation, une fragmentation urbaine. La fragmentation urbaine, c'est la fragmentation de pensée qu'on a les uns et les autres dans cette mondialisation, si on y prête garde. C'est-à-dire, on voit les choses par segments, et donc chacun dans son truc, et vous savez comme moi, pour ceux qui ont travaillé là-dessus depuis longtemps... par exemple, qui s'occupe des grands décrochés, alors moi, il y a longtemps que ça dure, ou des grands violents, puisque j'ai pas mal travaillé sur la violence, il y a déjà 20-25 ans. Ce qu'on voit, par exemple, je prends un exemple tout simple, les grands violents s'en occupent dans la journée, et je disais déjà il y a 20 ans, et qu'est-ce qui se passe après 19h? Alors que déjà, aux États-Unis, dans certains pays d'Amérique latine, dans certains autres pays européens, ont commencé à entrevoir des questions et des solutions, qui ont émergé en Seine-Saint-Denis d'ailleurs. C'est-à-dire que bah, les grands difficiles, grands violents de moins de 15 ans, j'en ai plusieurs en tête là, ou qui ont eu des tas de problèmes qui font qu'ils sont là comme ça, qu'est-ce qu'on fait pour eux le soir? Parce qu'ils ne dorment pas, eux. Et déjà, je me souviens qu'à l'époque, ça a peu choqué, hein, mais dans certains, à Indianapolis en particulier, justement, il y avait organisation de street basket et de rencontres dans des gymnases entre 10h et minuit, 1h, voire 2h du matin, des compétitions. Pas tout le temps, hein. Donc j'ai vu quelquefois en France, à Gennevilliers, un gymnase ouvert toute la nuit. J'ai vu dans d'autres villes aussi des patrouilles, mais des patrouilles, on va dire, de sécurité non policière, hein, avec des travailleurs sociaux et des psys qui tournaient en Seine-Saint-Denis la nuit. Parce qu'il y a des trucs simples à faire. Et on l'a appliqué avec Lucien Martin, qui était adjoint au maire de Blois. Pendant 8 ans, on a fait une implantation de lieux, on va dire, de paroles et de rencontres pour les jeunes, mais le soir et au début de la nuit. Dans le quartier Kennedy en particulier, qui était le... Bon, Blois, attention, hein. C'est pas le Brésil, hein. Mais il y a des problèmes aussi. Alors, à la recherche d'une pédagogie du problème, ça veut dire qu'on se centre sur l'accrochage. On positive. En France, on ne sait pas toujours faire. Hein. Rarement. En France, on est sur, justement, tout ce qui, on pointe ce qui est négatif. Vous avez vu beaucoup, ça commence un peu, hein, parce qu'on y arrive. Je crois que ce soir... Olivier Francom va parler de cette recherche qui a été faite à Lille autour de cette école Freinet. On commence à avoir des livres, des films. On commence à entendre un peu les gens qui ont pendant 3 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, tout ce qui a été fait comme expérience positive et qui marche. Dans le livre qui a été publié sur cette école de Marc Ambareuil, il en parlera ce soir, tous les résultats sont au vert. La violence a été maîtrisée en moins d'un an et demi. Les statistiques de réussite dans tous les domaines, contrôlées par une équipe de chercheurs pendant 5 ans, a priori pas favorables. Les statistiques, 30% de réussite, mieux qu'ailleurs. Ce n'est pas parce qu'il y a un miracle ou qu'il y a des génies. C'est parce qu'un inspecteur, sollicité par le recteur, a mis en place, c'est un ancien, je le connais bien, un ancien inspecteur Freinet. Il était Freinet avant d'être inspecteur. Je ne sais pas si on peut dire un inspecteur Freinet, pourquoi pas. Non, mais je dis, si, parce que j'ai un copain qui a écrit un livre, Être inspecteur Freinet, à Lyon, qui travaille avec Mérieux. Lui, il dit que si, mais il y en a qui disent que non. Bon. Alors, ces comment ? Oui, Sénor, qui est un ami. Alors, effectivement, ils ont réussi à mobiliser à peu près une quinzaine de personnes Freinet, mais bon, qui ont des un peu différentes, mais il a fait une équipe complètement soudée, en pleine cohésion, et alors les résultats sont là, quoi, hein, bonjour. Bon. Alors, pour finir cette partie, c'est vrai que il y a des, vous savez qu'il y a des discussions historiques autour de l'éducation nouvelle. Le mouvement d'éducation nouvelle, c'est vrai, était très disparate. Hein. N'oublions jamais, c'était les grandes périodes politiques, hein, le mouvement d'éducation nouvelle, en Angleterre au début du siècle, en Allemagne par la suite, il ne faut pas oublier que il y avait, vous alliez de l'anarcho-syndicalisme à certaines écoles qui ont été inféodées au nazisme, ou qui, dans les années 30-40, il restait d'ailleurs une seule école à Hambourg qui était différente, celle de Berthold Otto. Et c'est vrai qu'en Angleterre, de la même façon, vous avez... Ouais, c'est très fragile tout ça. Par contre, les mouvements qui ont continué et qui ont donné ce qu'on connaît aujourd'hui sous le terme de pédagogie Freinet, d'école active, groupe français d'éducation nouvelle, c'est vrai que tous ces groupes-là, on les repère quand même. Pourquoi ? Parce que à l'époque, je dirais maintenant moins, à l'époque, la radicalisation, elle porte sur respecter l'être humain, quoi. Hein. Alors maintenant, j'allais dire que la violence fait que la violence et la mondialisation, on voit ce qui se passe avec les grèves et autres. Moi, je pense que j'ai jamais été préoccupé, si, mais je veux dire, tellement effrayé par la violence, parce que la violence, quand il y en a trop, vous voyez ce que ça ramène ? Ça radicalise l'approche. Et on croit que les gens vont céder, vont tomber ? Non. Ils finissent toujours par se relever, faire un certain nombre de choses, de tout petit, des tout petits au plus grand. Lisez, là, je l'ai lu avec une grande passion, le deuxième livre de Naomi Klein, là, le capitalisme des catastrophes, là, la stratégie du choc. 650 pages, mais ça vaut le coup. Hein. Elle montre bien à quel point, justement, les grandes pensées économiques qui ont privilégié l'économie à la place de l'être humain, qui a presque une... C'est pas un complot, hein, mais c'est une mentalité qui choisit de passer à côté de l'être humain depuis 40 ans. Et qui, là, maintenant, arrive et culmine avec ce qui s'est passé. On l'a vu dans, dans les phénomènes financiers récents. Alors, éducation nouvelle, je dis ça pour souligner qu'il faut faire attention aux termes. Hein. Quand on vous dit, moi, je fais de l'école active, par exemple, c'est le titre 1920 du bouquin de Ferrière. Bon, faut voir ce qu'il dit. Faut aller voir ça. Hein. D'ailleurs, il parle de l'école active contre l'école assise, Ferrière, dans son livre de 1920. Et alors, il faut voir qu'à cette époque-là, il y a toute cette centration sur l'émergence qui date du 19e, hein, de l'enfant et de l'adolescent, qui, vous le savez, avant n'existe que peu. Alors donc, ce que je voulais dire dans ce deuxième point, c'est qu'on va choisir, c'est ça, je crois, le problème central de la pédagogie, de s'attaquer d'abord au problème plus qu'à la personnalisation, on va dire, de l'échec ou des troubles. Un enfant qui ne réussit pas, c'est un enfant qui n'a pas eu l'occasion de réussir. Ça, Freinet le dit tout le temps, il n'y a pas que lui. Et, bien entendu, si vous prenez l'école et si l'école reste dans ce qu'elle est, Freinet le pointe tout le temps, mais vous le trouvez dès que vous circulez un peu, y compris dans la formation d'adultes, c'est là qu'est la réponse, hein, la formation d'adultes. Je veux dire, il faut l'appliquer à l'école. La formation d'adultes, ça veut dire que les compétences, le portefeuille de compétences, j'entendais ça avant-hier encore, ça commence à venir dans les écoles. Le portefeuille de compétences, il ne faut pas le faire à l'américaine, mais si vous le faites bien, ben par exemple, je ne sais pas, moi j'étais nul en un certain nombre de choses, comme tout le monde à l'école, mais j'avais quand même quelques dons. C'est-à-dire qu'il y avait des trucs qui marchaient pas mal. J'écris beaucoup, moi. Alors, par exemple, l'écriture, bon, pas de problème. La parole aussi, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Mais par contre, sur le reste, j'avais plein de trucs. Alors, par exemple, l'informatique, il y a encore 6 ans, je ne savais pas ouvrir un ordinateur. Il a bien fallu que j'aille me documenter. Mais comme j'ai travaillé beaucoup avec les réseaux d'échange de savoir, comme conseiller, consultant pendant longtemps, ce sont des amis, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Bah, c'est là qu'on peut demander à des ados qui en savent plus que vous. C'est là qu'on peut se mettre, en changeant les statuts, dans des positions qui rompent avec le schéma traditionnel. Et là, vous accrochez quelque chose. Et c'est vrai que quand on a compris ça, on a compris que les compétences, elles vont bien au-delà de ce que l'école nous donne à apprendre. Je ne vais pas encore critiquer l'école, hein, mais je veux simplement dire que l'école de Lanneville, par exemple, où je suis quand même souvent, à l'école de Lanneville, vous pouvez avoir, comme vous le savez bien, moi j'ai suivi des classes de perf ou des classes relais pendant des années avec les enseignants. Vous aviez parfois quelqu'un, puis ça m'est arrivé quand j'enseignais, quelqu'un qui est là et vous avez l'impression qu'il n'a aucune compétence. Il ne sait rien, il n'a pas de désir, tout est tombé, on ne sait pas. Et vous allez passer 4-5 mois, je pense à quelqu'un, pour pouvoir accrocher par exemple sur les motos. Alors ça fait rigoler, vous savez, nos grands intellectuels qui n'enseignent qu'aux agrégés et qui sont relativement désagrégés, à mon avis. Je me suis trouvé souvent avec eux dans des débats de ce genre. Je parle de Brighelli en particulier, qui vraiment, lui, c'est un sommet, celui-là. Alors, c'est vrai que n'importe quoi, je ne sais pas s'il a enseigné, mais il n'arrive pas à répondre aux questions quand on lui demande. Par contre, ils sont là, vous savez, sauver les lettres et compagnie, quoi, une partie d'entre eux. C'est vrai qu'ils sont là, bon, allons-y, le savoir. Le savoir. Vous savez comme moi qu'il n'y a pas de désir, il n'y a rien. Le premier livre de pédagogie institutionnelle, à la première page, Oury dit, repris par Dolto, après tout, les méthodes, quelle importance, il faut décrocher le désir. S'il se passe quelque chose autour de ça, c'est bon. Et justement, et je passe à ma troisième partie, avant-hier à Bruxelles, il y avait la directrice de l'aide à la jeunesse, qui est je la connais depuis très longtemps, qui est des mouvements d'éducation populaire. Alors, ça change un peu la vision des choses. Hein. Elle est complètement là-dedans depuis 35 ans. Et donc, elle citait à la Cour européenne une discussion avec, justement, un certain nombre de personnes. Et il y avait quelqu'un, un Français, c'était un Français en plus, un Français qui... Alors, elle parlait de cette étude sur le bien-être, puisque la Commission européenne a lancé une grande étude sur le bien-être, hein, détecter les facteurs. C'est un peu, ça peut être aussi politiquement correct, hein. Attention. Mais il lance une grande offensive sur le bien-être dans la vie quotidienne, à l'école, etc. Bon. Et il y a quelqu'un qui a quand même trouvé le moyen de... Parce qu'elle disait, oui, mais alors, effectivement, est-ce qu'on peut penser au désir et au plaisir à l'école? Alors, il y en a un qui a bondi, qui a dit, madame, le plaisir n'a pas sa place à l'école. Elle en était encore traumatisée. Traumatisée, comme disaient les gamins de CM2, dans le temps, certains que j'ai entendus. Traumatisée, elle ne savait pas comment réagir à ça. On en a parlé. Alors, ouais, le plaisir n'a pas sa place à l'école. Alors, je disais tout simplement, il y a un long article sur le désir dans une étude sur la fatigue dans le livre Chronique de l'école caserne que j'ai publié avec Fernand Houry en 72. Il y a 25 pages un peu dures sur la fatigue du point de vue psychophysiologique par Jean Houry. Et qu'est-ce qu'il montre? Ce que vous avez vu, c'est quand un gamin, un adulte, accroche quelque chose, quand il a envie de comprendre, mais il n'y a plus de problème, hein, ça vous est arrivé. On reste jusqu'à 3 heures du matin sur les bouquins, on quitte plus son ordinateur, on va chercher des trucs. Je me souviens, je le cite souvent cet exemple, quand on a commencé à s'intéresser à la psychothérapie institutionnelle, c'est-à-dire dans les années 75-76, là, quand je commençais mes cours à Nanterre, j'ai un groupe d'étudiants qui a pris à 3, ils sont partis en voiture, jusqu'à Saint-Alban, chez Tosquelles, pour avoir la lecture d'un livre qui était traduit en un seul exemplaire, d'un Allemand qui s'appelle Hermann Simon, qui est un psychiatre, qui a quitté son hôpital et qui est parti avec les malades et qui a fondé une communauté de malades dans les années 20-30. Et ils sont allés là-bas en voiture pour lire ce livre. Ça s'appelle comment ça? Le désir. Et alors quand ils sont revenus nous en parler, nous qui n'y étions pas, ils avaient quoi? Du plaisir. Alors, troisième point, déculturaliser la pédagogie. Je l'ai dit tout à l'heure, donc je ne m'attarde pas. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai trouvé, moi, chez Freinet, dans le mouvement Freinet, dans tout ce qui tourne autour de ça jusqu'aux pédagogies institutionnelles, c'est que c'est un laboratoire. C'est un laboratoire, mais au sens où on l'entend à l'université. Et ça mérite de s'y attarder. C'est-à-dire là, vous avez des gens qui ont des techniques, qui les travaillent, qui les discutent, qui les essayent, qui les norment, qui les valident. Ça circule. Et tout ça, ça entraîne un mouvement fantastique, parce que, je le disais d'ailleurs tout à l'heure, à l'université, dans les premières années, j'ai fait mon premier cours sur la pédagogie institutionnelle et Freinet, la pédagogie institutionnelle, à Nanterre en 73. On le voit dans le film, hein, parce qu'ils m'ont fait reconstituer le cours, sauf qu'il manquait quelqu'un, puisque ce premier cours, j'avais réussi à entraîner avec moi Fernand Houry, qui ne voulait pas mettre les pieds à l'université. Bon, enfin, j'ai réussi à l'y emmener 2-3 fois. Et il était dans ce cours, on était une vingtaine, il était à ma gauche, et bon... Et il avait amené ses affiches, enfin, bon, ses affiches, ne rien dire que nous n'ayons fait. Par où commencer? Par tout à la fois. Enfin, bon, vous voyez, pas de problème, c'est la main, ça. La main, c'est par où commencer? Par tout à la fois. Il dit, la main, il y a des doigts, vous n'en enlevez pas un pour vous occuper, non. Bon, tous les doigts marchent ensemble. Alors, c'est son affiche, ça. Et alors, c'est cette idée qui m'a sauté aux yeux de pédagogie, de laboratoire de la pédagogie, c'est-à-dire... On peut s'attaquer aux difficultés, il y a un cadre, il y a de la sécurité, il y a des praticiens-chercheurs et des chercheurs-praticiens. Je défends cette idée depuis le début. Hein. J'ai été longuement isolé à la fac, maintenant c'est fini parce que ça revient à la mode, sur la recherche-action et les praticiens-chercheurs. On avait encore la discussion avec Olivier Francomme, là, il n'y a pas longtemps, et Florence aussi, qui est là. Et c'est vrai que cette idée de laboratoire, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses. Est-ce qu'on a quelque part ailleurs, aujourd'hui dans le monde, un laboratoire vivant de plusieurs milliers de personnes? Alors, entre nous, c'est vrai que parfois, il faut qu'il y ait un peu plus de, dans certains points, peut-être un peu plus de cohésion, de cohérence, de ligne. Mais il y a énormément de choses à faire. Deuxièmement, ce qui m'avait frappé, toujours dans cette déculturaliser la pédagogie, et ça, c'est Henri Bassis, hein, un des grands fondateurs du GFEN, avec qui j'étais assez lié tout un temps, Henri et Odette Bassis. Et il me disait à peu près ça, je reprends le terme que Henri employait tout le temps, on a pillé toutes les pédagogies, nous. Il me disait, nous, le GFN, pourquoi ça marche bien? Parce qu'on a fait du pillage intellectuel, il appelait ça comme ça, lui. C'est-à-dire, ils avaient tout lu, hein, tous les livres de pédagogie institutionnelle, tous les trucs de Freinet, etc., ce qui leur permet d'écrire les livres d'époque, là, et en particulier, on en parlait puisque j'avais des propositions sur l'Afrique, là, d'intervention pour la formation des maîtres au Mali. Quand ils sont allés au Tchad, ils ont pensé pendant 2-3 ans la formation des maîtres au Tchad à partir de tout ça. Bassis était très très clair, hein, sur cette question, c'est-à-dire, et je suis assez là-dedans, c'est-à-dire, il n'y a rien à cacher et il n'y a rien à soustraire. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas voir les dernières technologies, ce que faisait Freinet, hein, hier? On regardait le pâté baby, on regardait aussi les magnétophones, l'enregistreur, enfin, tous ces outils sur lesquels il a tout de suite bondi, l'enseignement programmé. Ça a été repéré dans les années 25. On parlait de Roger Lallemand. Roger Lallemand, les premiers fichiers, les recherches américaines, les recherches internationales sur ces questions-là, elles étaient dans le mouvement Freinet. C'est comme ça qu'il faut faire. Alors, et puis, ce n'est pas si compliqué si on n'est pas tout seul. Le problème de cette France en particulier, Mais je suis allé au Japon, je peux vous dire, on n'est pas loin du Japon, à tous les niveaux, hein, y compris sur la densité mentale de l'école. Vous voyez un peu la formule que j'emploie. Hein. Vous voyez ce qu'il y a derrière. Bon, parce que c'est très dur, l'école au Japon. Mais en France, c'est pas mal non plus. Pour le surmenage, le stress, hier, je lisais encore. Alors, attendez, je crois que c'est... Les parents pensent, en France, qu'un enfant sur trois est stressé à l'école. Mais les parents, il y en a un sur deux qui est stressé pour son enfant à l'école. Alors, les techniques freinées. La pédagogie institutionnelle des techniques freinées, j'appelle ça comme ça. Alors encore une fois, ces pédagogies institutionnelles différentes, elles sont complètement enracinées dans ces techniques freinées. Les techniques freinées, moi j'aime bien les appeler comme ça, et Freinet les appelait comme ça aussi, fut un temps au début en particulier, contre le terme de méthode. Hein. Ce n'est pas une méthode qu'on va appliquer, et puis encore une fois, il faut décoller de ces problématiques-là. Mais c'est vrai que le conseil de coopérative, c'est le bouquin de... C'est un des points clés. C'est la clé de voûte, hein, disait Fernand Houry, de la classe, mais pas que de la classe. Le conseil de coopérative, mais vous avez à côté de ça la correspondance, les textes libres, les sorties enquêtes, le système des activités, les ateliers, le travail par groupe, ce qu'on nous raconte sur la Finlande. Tiens, avant-hier, à Bruxelles, il y avait une Finlandaise qui était là, qui avait été invitée pour parler de la Finlande. Enfin, la Finlande, on peut dire ce qu'on veut, on a vite fait d'écarter tout ça, nous. Mais c'est vrai que dans les pays scandinaves, par exemple, il n'y a pas l'obsession de la note qui est la nôtre. Et puis, on travaille facilement en petits groupes. Moi, je l'ai longuement pratiqué. On peut dire ce qu'on veut, y compris à un moment, à l'université, on avait levé les notes. On arrivait à la fin sur des notes. Mais dans toute une partie du processus, on lève l'hypothèque des notes et on peut faire beaucoup de choses avec ça. En valorisant, encore une fois, les compétences multiples. Parce que c'est vrai que si on reste dans le domaine purement scolaire et à un moment, il faut y revenir... Vous avez celui qui requiera trois lignes, alors que l'autre aura déjà fait une page et demie. À l'université, moi, j'avais fait mon deux. J'avais fini mes examens, je sortais à la moitié du temps prévu. Les autres avaient, certains, pas encore commencé. Et quand je me suis mis à travailler en groupe, à passer les examens en groupe, puisque ça a été le cas 68, 70, par exemple, à Nanterre, je servais beaucoup plus à un groupe qu'à moi seul. C'est clair. Alors... Pourquoi est-ce qu'on se priverait de ce genre de choses? Alors, c'est vrai que les techniques freinées, elles sont là. Alors, la différence qu'il y a, ce n'est pas la différence, c'est une question d'époque. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y en a plus. La discussion autour, et avec Élise Freinet en particulier, les pédagogies institutionnelles, qu'est-ce qu'elles découvrent? Elles découvrent les sciences humaines. Alors, par Toscaliès, hein, Jean Houry, dans les années, il ne faut pas oublier que dans les années 40-50, que font ces gens-là qui travaillent dans des hôpitaux psychiatriques qui ont été, n'oublions pas quand même, la structure politique du moment? J'étais à l'origine de la publication, avec d'autres, d'un livre sur la guerre et sur l'extermination des malades mentaux qu'on a laissé mourir ou qu'on a fait mourir quelques dizaines de milliers en France, sciemment tout de même. Bon, alors, les gens qui résistent à ça et qui ont réellement résisté, bah, c'est ceux qui étaient de côté de ce qui va devenir la psychothérapie institutionnelle, puisqu'à Saint-Alban, en 1942, il y avait par exemple, parmi d'autres, hein, Éluard, sous un faux nom, qui était à Saint-Alban, il y avait des résistants, et l'hôpital de Saint-Alban travaillait avec la résistance depuis 1941-1942. Et les malades mentaux étaient dans le coup. Bon, ça a l'air de rien, mais ça fait la différence. Alors, ils découvrent les sciences humaines dans quel sens? C'est-à-dire, particulièrement Toscaliès, hein, ils découvrent la dynamique des groupes, la psychosociologie et la psychanalyse. Et ça leur fait tilt, parce que c'est vrai que quand vous savez un peu vous servir d'un groupe, ou utiliser un groupe, mais dans le bon sens du terme, ou travailler avec un groupe, quand vous savez qu'un groupe, c'est jamais contrôlable, et que quand vous croyez qu'un groupe va bien, une classe va bien, vous arrivez un matin, ça passe pas. Ou ça passe pas, et ça peut durer une semaine, ça peut durer... Ou subitement, une classe se met à dérailler, qu'est-ce qui se passe? Les phénomènes de groupe, alors depuis, il y a eu tout ça, on l'a beaucoup étudié, mais c'est autour de, j'allais dire, de cette reprise des sciences humaines, et particulièrement de la psychanalyse, qui va poser fortement la question du sujet, c'est-à-dire l'éthique, ne pas penser pour l'autre, quoi, hein, ne pas parler pour l'autre. Et donc faire qu'il ait la parole. Et Houry disait toujours d'ailleurs, la parole, ça se donne pas, ça se prend. Il avait une affiche comme ça. La parole, ça se donne pas, ça se prend. Alors, ça m'amène à dégager rapidement, pour finir, hein, puis je vais arrêter, ce qu'il y a autour de ces dimensions pédagogiques aujourd'hui, et qui fait que Je serai au Brésil cet été pour 3 semaines pour une série de conférences de Porto Alegre à Aracaju et à côté de Recife, à João Pessoa, où je vais souvent. Et à João Pessoa, il y a l'inauguration d'un institut, les 10 ans d'un institut de psychanalyse qui s'intéresse à quoi, à votre avis? À la psychothérapie et à la pédagogie institutionnelle. Donc les gens sont venus faire des stages à Nanterre, j'y vais depuis 3 ans. Et alors ça part très fort. Parce que les problèmes qu'ils rencontrent, les réponses qu'ils trouvent sont de ce côté-là. Pourquoi? Alors un terme qui se fait jour dans les facs aujourd'hui, dans les recherches sur l'éducation, c'est ce qu'on appelle la démocratie d'apprentissage. Alors c'est ça, c'est-à-dire une école, une classe, mais un centre de loisirs aussi. La pédagogie de la rue, la pédagogie municipale, j'allais dire, c'est-à-dire la politique de la ville qu'on va mettre en place. Là, j'étais en Guyane avec le ministère de la ville, il y a 2 ans, pour une série de conférences dans la Guyane sur cette question. Ça veut dire quoi, la réussite éducative du point de vue de la ville? J'ai ici sous les yeux un article d'Alain Vulbeau, qui travaille avec moi à Nanterre, spécialiste de la ville, et qui a intitulé cet article « Éduquer tout au long de la ville ». Au lieu de tout au long de la vie, bien sûr, mais l'idée, elle est là. Hein. Alors, la démocratie d'apprentissage, c'est quoi? C'est se mettre dans des structures qui font que on ne va pas attendre le grand soir, ni 5 heures, ni le mois suivant, ni l'année d'après. C'est-à-dire que chaque moment, chaque attitude, chaque relation, chaque structure de relation qui est mise en place a un rôle, une fonction, et imprime plus ou moins de l'éducation dans le groupe dans lequel on se trouve. C'est-à-dire que tout va compter. Alors, on peut... Si on parle, si on en discute, il y a des instances, ce conseil de coopérative, conseil dans la classe, conseil réellement de coopérative, c'est-à-dire qui ne traite pas seulement du scolaire, qui traite aussi dans des temps de parole, par exemple, des préoccupations, des « ça va » ou « ça va ». C'est le terme qu'on employait à l'époque, « ça va » ou « ça va pas », qui a fait tilt avant-hier encore à Bruxelles, un chef d'établissement. On avait dans des groupes le moment « ça va, ça va pas ». Quand les structures sont bien en place, on peut se permettre d'entendre quelqu'un qui dit « ce matin, je n'ai pas envie de travailler. » Ça, c'est un des trucs de la pédagogie institutionnelle et qu'on trouve dans la pédagogie Freinet, bien sûr. Ça, c'est l'idée de, on appelle ça comme ça, nous, ne jamais aller contre le symptôme. Tu n'as pas envie de travailler, d'accord? On va prendre des dispositions pour faire quelque chose. On verra comment on va récupérer, rattraper quelque chose. Quand? Bon, les 4 ans que j'ai passé, moi, en lycée professionnel, j'avais une salle de classe, bien entendu, mais j'avais une deuxième salle vide. Qui était le lieu du non-lieu. Ce qu'ils appelaient, à Bristol, j'avais vu ça, le « quiet room », les gens qui n'avaient pas envie de travailler. Ils ne pouvaient pas aller à plus de 4, hein, puis ce n'était pas pour jouer aux cartes. C'était, bon, ils attendaient le temps qu'ils voulaient, ça pouvait être un coin, un truc, bon, pas de problème, tu n'as pas envie de travailler, je ne veux pas te forcer, ça ne sert à rien. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Se centrer sur les structures, pas sur la personne. On peut engueuler quelqu'un jour et nuit, il ne va pas apprendre pour autant. Donc, il faut arrêter avec ça. C'est un problème d'enseignant, ça, celui qui n'apprend pas. Enfin, je veux dire, il le vit pour lui, quoi. Alors, démocratie d'apprentissage, c'est ça. Ce qu'on entend par là aujourd'hui, ne rien négliger qui permette de travailler la démocratie, mais de manière, j'allais dire, presque mentale, affective, et dans le groupe quotidien dans lequel on se trouve. Ce qu'on voit bien chez Freinet, mais ce qui est fortement encore marqué par... surtout par Fernand Houry et la pédagogie institutionnelle et les groupes aujourd'hui, c'est l'histoire de la loi, ce qu'on appelle les 4 L. C'est-à-dire qu'on insiste plus sur la loi que les règles. Si vous rentrez dans une classe, si vous avez 350 règles, ça ne va pas. De toute façon, les règles, ça change, ça bouge. Par contre, la loi, il n'y en a qu'une. C'est, je l'ai dit comme ça, moi, depuis le temps, attention, être humain. Vous écrivez ça au tableau, avec des petits, des grands, des moins grands, attention être humain, puis après vous discutez, et vous allez tirer les implications de attention être humain. Bah, vous allez vite, hein, forcément on va se respecter. On va travailler tant d'heures ensemble, alors quelles règles on se donne pour se respecter? Comment on fait? On rend les travaux quand? Et je fais quoi moi? Et par exemple, alors moi par exemple à la fac, quand je rends les travaux, j'assène les notes? Non. Je dis voilà, je rends les travaux, je dis voilà, je lis les notes que je propose de mettre. Et puis je dis aux gens, allez-y, lisez, regardez, vous êtes d'accord, pas d'accord? Et je passe 2 heures à discuter s'ils sont d'accord, pas d'accord. Parce que quelqu'un me disait l'autre jour, mais c'est juste, ce que je disais de mes 3 lignes, de mes 2 pages, vous avez des étudiants qui font un effort colossal et qui vous produisent quelque chose qui va faire quelques pages, mais ils ont passé 10 fois plus de temps que les autres. et je noterai que l'expression, que la grammaire, que l'orthographe. Non, je vais dire deux notes. Je vais dire, voilà. Par exemple, ça te ferait tant par rapport à lui là-bas, qui est particulièrement brillant, qui il va sur Internet une demi-heure, il vous sort un truc, etc. Et il l'aurait plus que toi, mais là, à effort considéré, vous avez la même note. Parce que lui, il a travaillé 10 fois plus. Et ça, quand vous l'avez situé, discuté, etc., c'est un entraînement qui permet d'installer ce respect réciproque et qui n'empêche pas qu'à l'arrivée, bien entendu, qui n'empêche pas qu'à l'arrivée, quand vous passez les examens, vous avez les notes qui, vous passez des examens blancs, alors vous avez les notes, mais c'est comme un sociogramme, c'est comme une prise de photo. Les notes, c'est les notes à un temps T de ce qu'on peut obtenir. Point. Et on change la donne, on le sait, hein. J'ai fait longuement de la docimologie. Hein. Il y a des tas de façons de noter. Il y a même des façons de noter sans notes, comme les Scandinaves. La notation analytique par profil. Vous cherchez les compétences, les traits de caractère, les progrès. Et puis en plus, avec l'interdiction de dévaloriser les personnes dans les bulletins. Maintenant, c'est clair, ça. Encore, à peu près clair. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc, vous voyez, quand on a ça dans la tête, malheureusement, ce n'est pas encore vraiment toujours le cas, c'est plus simple. Alors, je continue, la loi plus que les règles, et les 4L, ce que j'indiquais tout à l'heure, je vous les indique au passage, c'était au moment de la 4L, vous savez, la voiture. C'est un insti dans un groupe qui dit, alors on avait 3L avant, des lieux, des limites, des lois. Ça, c'est typique de la pédagogie institutionnelle, des lieux, des limites, des lois. Quand il y a des lieux, il faut qu'il y ait des limites, parce que sinon, ce n'est pas un lieu, et qu'il y ait des lois qui le définissent, parce qu'on sait ce qu'on va y faire. Donc, ça ne nous empêche pas, si on veut, de discuter. Par exemple, si je veux faire du bavardage, moi, ce qui était le cas dans les groupes de formation ou avec les grands adultes, c'est le moment bavardage. Où est le problème? On arrive, vous avez déjà vu les gens qui arrivent au boulot, qui se croisent dans la rue, commencer tout de suite, comme des malades, à se mettre à travailler. Non. Donc, il y a un temps bavardage. Mais le temps bavardage, il y a une clochette, un truc ou un feu vert qui dit au bout de, je ne sais pas, 3, 4, 5 minutes, ça dépend hein, où on est. Si on est dans la formation d'adulte, ça peut fonctionner autrement, avec plus de liberté. Feu vert, on circule librement. Feu rouge, on se tait parce qu'il y en a qui travaillent intensément. Donc, on circule, mais sans bruit, éventuellement. Bon, etc. Des toutes petites règles qui sont toujours sur les structures, jamais sur les personnes. Et c'est ce que... Bah oui, c'est, tout est là-dedans. Hein, dans Sylvain Connac, vous avez plein de bouquins. Hein. Donc, chez Matrice, on a toute la pédagogie institutionnelle. On a réussi à tout rééditer. C'était épuisé. Non, mais je vous le dis parce qu'il serait introuvable aujourd'hui. Alors, ça m'amène à dire ça comme ça. Alors, des lieux, des limites, des lois, et quel était le quatrième L qui est surgi avec la voiture de l'époque? Le langage humain, le langage commun, c'est ça. Et réfléchissez à ça, moi j'y ai beaucoup pensé. Avec ce simple 4L, on définit l'espèce humaine. Notre langage à nous, pour commencer de faire quelque chose ensemble, qu'on soit à Récif, qu'on soit en Afrique ou qu'on soit ici à Mayenne, c'est le langage qu'on va pouvoir définir, il va s'appuyer sur des lieux, des limites et des lois. Si on n'a pas commencé par ça, ce n'est pas la peine. Alors, quelques points encore. C'est vrai que du coup, dans ces pédagogies, on va introduire des choses qui peuvent paraître plus dures. Parce qu'on pense, derrière, ça c'est Oury, alors ça se discute. Oury, il était plutôt, comme moi d'ailleurs, du côté de Hobbes que de Rousseau. Alors ça, c'est un point de vue. Hein. C'est-à-dire qu'on pense que l'homme, c'est une espèce à protéger. L'homme, c'est une espèce protégée, enfin relativement, pas vraiment, mais c'est une espèce à protéger. Et qui a un travail à faire de socialisation de l'institution dans les écoles. J'avais retourné la question, vous savez qu'on entendait dans les premières grandes enquêtes sur la violence dans les années 90, dont j'étais, en France, il y avait une vingtaine de groupes sollicités et financés par le ministère qui ont publié d'ailleurs en 96 un livre qui s'appelle « Violence à l'école, état des savoirs ». Là, vous avez le résumé de tous ces groupes, mais il y a eu des tas de livres de publiés depuis. Et ce qu'on commençait à voir, c'était ça, effectivement. C'est-à-dire qu'on avait retourné la proposition « Ces jeunes sont désocialisés, les jeunes violents sont désocialisés ». Alors, au bout d'un moment, et d'un commun accord, mais l'ensemble des groupes, hein, on a fini par se dire « Attendez, c'est l'institution qui est désocialisée. C'est la socialisation de l'institution qu'il faut mettre en place. Parce que regardez un peu le fonctionnement général de nos institutions dans cette ce prisme individualiste qui a montré ses effets grandioses dans les mois qui nous ont précédés là. C'est vrai qu'on a vu où ça nous emmène, mais c'est comme ça tout le temps. Ce que Naomi Klein montre bien, c'est-à-dire que, effectivement, quelqu'un disait tout à l'heure, je lui disais, je ne sais plus où elle est, la dame, là, notre amie qui était là, qui disait, oui, il faudrait supprimer l'argent, et quoi encore déjà ? Que c'était l'autre, il y avait deux trucs à supprimer, terrible. Hein. Je lui ai dit, ah ben, c'est pas pour tout de suite. Hein, mais... Alors, ce qu'on va trouver dans la pédagogie institutionnelle qui, au début, a choqué une partie de Freinet, j'ai eu des longues discussions avec Jean Le Gall et d'autres, c'est que vous allez trouver, vous l'aviez déjà chez Freinet, les métiers, bien sûr, mais vous allez trouver avec Fernand Houry, qui faisait du judo, et c'est vrai que, comme par hasard, dans ces groupes, beaucoup d'entre nous ont pratiqué les arts martiaux, donc la violence, oui, ça fait partie de la vie, hein. Et donc, il a inventé les ceintures, ce qu'on appelle les ceintures, mais qui étaient déjà chez Freinet. Ce qu'on appelle les couleurs chez Freinet, c'est devenu les ceintures chez Houry, c'est-à-dire les ceintures, y compris, alors ça, ça choquait beaucoup il y a 30 ans, les ceintures de comportement. Bon, moi qui ai dirigé des clubs de karaté, je peux vous dire que j'ai jamais eu aucun problème. On est ceinture marron, ceinture verte ou ceinture noire, hein, mais ça se prouve, ça se montre, pas que sur le tapis. Il y a une dimension éthique, une dimension de travail et une compétence technique à mettre en place. Bon, ça se contrôle. Alors, si bien que vous allez trouver dans ces classes, vous le trouvez aussi dans le livre évidemment, les ceintures de comportement par exemple, et alors on croit que c'est un problème. J'ai jamais vu, y compris avec les grands difficiles avec lesquels on peut travailler, j'ai jamais vu quand c'est bien installé, quand ça démarre quand il faut, que les adultes sont dans le coup, j'ai jamais vu des ados ou des grands difficiles, se choquaient de ce genre de choses. J'ai vu dans une classe de lycée professionnel, une gamine passer sa ceinture verte devant un état-major, 15, un garçon, 14 filles, lycée professionnel d'Anières, Chantal Costa, qui a fait une thèse avec moi il y a 7 ans. Sa thèse, on l'a publiée sous le titre d'un livre, qui est le titre tout à fait, j'allais dire, hallucinant, être auteur de soi-même. Ça résume sa pédagogie au lycée professionnel. Elle prenait les métiers de l'immobilier, c'est-à-dire les gens qui étaient là, on va dire par défaut. Elle insufflait, entre autres, par les ceintures, mais pas seulement, hein, le conseil, la parole, etc., et les techniques, puis les enquêtes, beaucoup d'enquêtes, hein, beaucoup de sorties à l'extérieur, une dynamique où, littéralement, on voit dans un des films qu'on a pu tourner, on voit un des gamins qui, au début de l'année, il est effondré sur sa table, il n'a rien envie de faire. À la fin de l'année, il explique lui-même, redressé comme ça, pourquoi et comment il s'est redressé. Et pourquoi il est différent dans la rue. Et ce jour-là, dans la soutenance de ceinture, soutenance, hein, on disait, comme une thèse, c'est moi qui présidais le jury, il y avait le chef d'établissement à ma gauche, une prof au bout, et Chantal Costa à ma droite. On avait fait des diplômes, grands comme ça, en papier, de couleurs, des couleurs de ceinture. Et ils venaient soutenir leur ceinture. Ils avaient 15 minutes pour dire, est-ce que je suis du niveau de la ceinture verte ? Alors la fille, elle dit, oh, j'ai quand même fait des progrès parce que, par exemple, quand je suis arrivé dans cette classe, chez moi, tout le monde claquait les portes. Et ici, pour passer de ceinture blanche à ceinture jaune, il y a un item, entre autres, hein, il y a des items, on ne claque pas les portes quand on circule. J'ai mis 6 mois à ne pas claquer les portes. Et alors elle nous dit, maintenant je ne supporte plus qu'on claque les portes chez moi. Alors, ça pose un problème parce que je suis toujours en train de reprendre dans la famille, tout le monde, parce qu'ils claquent les portes. Je ne peux plus entendre claquer les portes. Alors, il nous a fait tout un discours. Et j'étais là un peu, pas pour les piéger, mais je disais à toutes ces jeunes-là, qui l'une disait, par exemple, je ne suis pas encore tout à fait au point. Moi aussi, je voudrais passer la ceinture verte, mais bon... Il y a des fois, le matin, j'arrive, je suis un peu négligé. Vous voyez une fille qui vous dit ça ? Je suis un peu négligé, je ne suis pas encore... Donc, je sais bien que je ne suis pas encore... Et qui vous dit ça devant un jury, pendant que les autres attendent dans le couloir. Et donc, ils avaient ou pas leur ceinture en disant, de toute façon, alors on pense qu'on discute, jury. Et ça sera peut-être pour la prochaine fois, tous les 3 mois, c'était. Hein. Donc, ça a été absolument fascinant. Et alors, quand ils l'avaient, je mettais le tampon. Paris 10, sciences d'éducation, je signais, le jury signait. Et ils repartaient avec leur diplôme. Et il y en a une qui nous a dit, c'est le seul diplôme que j'ai et je l'ai affiché au pied de mon lit. Alors, bon, et j'ai vu ça en Belgique aussi, dans une maison d'enfants. On a fait un livre sur cette maison d'enfants après 10 ans de travail, qui s'appelle « Placé, vous avez dit ». Et il y a une gamine dedans, que j'ai revue beaucoup plus tard, qui est avec le livre, elle circule toujours avec ce livre dans ses valises, Donc partout où elle va, vie agitée, hein. Et elle dit, voilà, je garde ce livre parce que c'est le seul livre qui parle de moi. Et donc elle se balade avec lui, elle a 40 ans maintenant, hein. Elle se balade avec son livre. Alors, métier, ceinture, et puis alors des choses qui choquaient beaucoup, la monnaie aussi, la monnaie. Certains d'entre vous la pratiquent, mais par exemple, il y a des monnaies, il y a des monnaies, et pas fictives, hein, c'est une vraie monnaie. C'est de l'argent qui circule dans la classe. On peut faire le marché, on peut acheter des choses. Et alors, horreur et damnation, je me souviens des discussions, on paye des amendes. Ah, les amendes, la crise. Là, quand on disait des amendes, je me rappelle, Jean Le Gall tombé de sa chaise.
Enfin, ça aussi.
Lui aussi, le Guy aussi.
Absolument.
Mais ça ne m'a pas empêché de... C'est Jean Le Gall qui m'a remplacé dans mon année sabbatique.
On en a déjà discuté.
Ouais, ouais, en 92, j'ai confié mon année sabbatique. C'est lui qui a fait mon cours de pédagogie institutionnelle. Hein. Bon, on arrivait toujours à tomber d'accord. Mais c'est vrai que les amendes... Alors, les psys, par exemple, sont très séduits pour les amendes. Je ne m'attarde pas trop là-dessus. Hein. J'ai fait une enquête à propos de la maison d'enfants en Belgique. J'ai fait venir 3 psys de l'extérieur qui ont interviewé les enfants et les adultes. Et ça donne un truc de 50 pages qu'on a publié sur pour ou contre les ceintures et pour ou contre la monnaie, les trucs comme ça, quoi. Et alors, je peux vous dire que les gamins, ils sont pour. Mais ils sont pour, pourquoi? Parce que ça a une vertu. Vous savez, quand les amendes, ce n'est pas des trucs, bien sûr. Attention, derrière, il y a quelle amende, de quel montant, sous quel prétexte, ça se discute en conseil. Il y a des règles, parce que, bon, on peut tomber dans n'importe quoi. Vous avez même une classe institutionnelle célèbre où un des gamins dont le père était banquier faisait de la fausse monnaie, lui. Alors, il introduisait avec son père, c'est son père qui l'avait aidé à faire de la fausse monnaie pour qu'il ait toujours de l'argent en classe.
Ça prouve bien la dérive de la méthode qu'ils ont prise des amendes. Là.
Une dérive.
On ne peut pas mieux dire.
J'ai cité une classe sur des dizaines et des centaines. Alors, dans ces pédagogies, il y a des trucs un peu durs comme ça, et je vais le dire comme ça. Hein. Ce qu'on revendique, c'est simple. Contrôle social, oui. Sanction, oui. Dans les deux sens du terme. C'est-à-dire, bon, sanction, c'est aussi bien applaudir quelqu'un ou à la Neuville, tous les anniversaires sont souhaités, vous connaissez ça. On dit, on reconnaît, par exemple, on souligne que quelqu'un a fait quelque chose. Quand il a, je me souviens de discussions, ça c'était au Mureau, dans des établissements où une année, alors j'ai eu le temps de faire des monographies, on peut appeler ça comme ça, vous voyez un gamin qui devient extrêmement violent, allez, en seconde. Mais il faut aller voir ce qui s'est passé en troisième. Quand il est arrivé, il est rentré en troisième dans quelle classe? Qu'est-ce qu'il y a eu dans l'année? Reprenons les bulletins. On regarde et on voit, par exemple, je pense précisément, qu'à un moment, il fait des petits progrès. Alors, il y a un prof qui souligne ses progrès, les autres pas. Il y en a même un qui met, je ne sais pas quoi, enfin, il doit y avoir eu un accident, il a réussi ce trimestre, je ne sais pas quoi. Non, non, mais je ne plaisante pas. Hein. Et donc, le gamin, il se passe tout un tas de trucs. Et quand j'ai reconstitué l'histoire avec les profs qui travaillent avec moi, dans l'établissement, et le chef d'établissement, il faisait une thèse avec nous, c'est vrai qu'on voit qu'à un moment, il y a eu quelque chose, tout simplement. Mais c'est un point, un demi-point, deux points. C'est qu'il n'a pas été là, soutenu, accompagné, tenu au moment où il fallait l'être. Alors, bon, c'est ça la sanction. C'est être applaudi ou le sourire, ou l'appeler par son prénom. Ou dire quelque chose, aussi bien que, faut être clair, hein, et si vous pratiquez un peu les délinquants, ce qui m'est arrivé, ou l'encadrement de délinquants dans des circonstances assez solides quand même, ce qu'ils exigent, c'est la clarté. C'est pas de les embobiner dans des trucs... hein, c'est pour ça que j'étais pour ce qu'on a appelé le traitement direct, moi, en 90-92, c'est-à-dire le traitement direct, c'est, t'as fait ça, tu regardes, t'as vu le code pénal? Je me baladais toujours avec mon code pénal, moi. Le code pénal, page temps, tiens, t'as vu? 3 mois de prison, 2000 francs d'amende, etc. C'est l'article temps. On fait quoi maintenant? Discuter le code pénal, voir un peu ce que ça implique, recadrer ce rapport à la règle et à la loi, et après passer à autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire, hein, exactement comme ça, puisqu'on est dans la démocratie d'apprentissage et qu'on n'est pas dans la société en direct. On est dans l'indirect de la société. Alors ça veut dire qu'on va travailler autour de ça, y compris la monnaie. C'est Houry, moi j'ai eu des grandes discussions sur la monnaie avec Houry. Il disait, t'as déjà vu quelqu'un qui travaille pour rien, toi, ici, dans notre société à nous? Alors il distinguait, on distingue dans les classes ce qui est du travail ou pas. Par exemple, un gamin qui fait...
Moi je travaille pour rien.
Oui, oui, bah, non, mais, ah, oui, mais ça, tu peux le choisir si tu veux. Mais par exemple, tu n'es pas obligé non plus, tu serais, tu irais peut-être pas jusqu'à donner toute ton énergie, donner, etc. Bon, puis encore, c'est un choix de retraité ou d'adulte, etc. Mais un enfant, alors on distingue le travail de ce qu'on appelle, qui n'est pas de l'ordre du travail, qui est de l'ordre du désir. Ça aussi, c'est la psychanalyse. Si quelqu'un fait un dessin où il veut l'offrir, il veut offrir quelque chose à quelqu'un d'autre, ça ne se vend pas, ça. Ça s'offre. Par contre, quand vous avez un travail à faire de groupe ou autre, y compris nous, dans nos groupes d'adultes, quand on se réunissait pour sortir un journal d'adultes, où il y a à peu près aujourd'hui 200 noyaux de pédagogie institutionnelle qui vont jusqu'à, c'est le lectorat de matrice, hein, 3 000 personnes en gros derrière. Bon, quand on travaille et on diffuse des choses, on se paye pas cher, mais il y a un fonds. Et par exemple, quand on tire des trucs au tract la nuit et tout, bon, bah tiens, il y a le forfait. Ça, je sais pas, moi, 1 ou 2 euros de l'heure, mais voilà. Et on met de l'argent de côté pour s'acheter du matériel. Par exemple, Hervé, qui n'est pas acheté personnellement. On y tenait beaucoup, ça. Au début, on part avec les trucs perso, puis après, non. Il faut qu'on trouve l'argent dans le collectif. Et on le trouve. Hein. Alors, je continue et je finis, excusez-moi, je suis un peu long. Ne jamais penser pour l'autre, ça veut dire aussi, donc dans ce que j'ai dit, contrôle social, sanction, toujours dans la socialisation de l'institution. Et puis, je vais vous dire ce que j'avais, c'est le sous-titre de ma première thèse, j'en ai fait 2, 79, autour de la pédagogie institutionnelle et de la formation des maîtres, hein, en gros. J'avais mis ça en titre, on me l'a fait enlever en sous-titre. Ni Dieu, ni maître, des structures. Ah, ça, bon, on me l'a fait enlever, on m'a dit, c'est pas possible, tu vois pas, non mais ça va. Ni Dieu, ni maître, des structures. C'est ça quand même, des structures, un dispositif. Et donc, ça pose ce qu'on appelle dans le mouvement Freinet une longue analyse, y compris à dimension analytique, à dimension psychosociologique, de la part et de la place du maître. Ça commence par le maître. Je suis atterré, mais vous le savez aussi bien que moi, du nombre d'adultes aujourd'hui qui ont peur des enfants, qui ont peur des adolescents. Alors aussi bien à l'école que dans le travail social. Hein. Dernière anecdote brève, je suis une équipe d'éducateurs qui a été montée tout spécialement dans l'Essonne. Dans l'Essonne, il y a 1 an et demi que ça a commencé. 15 adultes ont été embauchés pour ça. 15 adultes pour, en tout, il y a eu 10 enfants, tous mineurs. Donc de 12 à maximum 16 ans, 15-16 ans. Au bout d'un an et demi, sur les 15, il en reste 2. Et c'était des gens de très bon niveau. Il y avait une convivialité, ils ont été réunis un mois avant que ça commence, toute une mise au point de techniques, de stratégies, etc. Là, et parce que c'était, alors pour les gamins, c'était ça ou le centre éducatif renforcé, voire fermé. Ça s'avère maintenant être pratiquement un échec. Mais pourquoi ? Parce que c'est vrai, une grande part de ces adultes, et on le voit bien dans le milieu enseignant, maintenant, il y a quelque chose qui se joue dans le rapport aux jeunes, c'est que cette défaillance des structures et cette décentration des structures fait qu'on est pris dans une relation où la violence domine et où je pense que l'adulte n'est pas de taille s'il n'a pas travaillé. Lui, personnellement, là-dessus, il n'est pas de taille à résister à ce qui se fait aujourd'hui. Alors, je ne parle même pas de ce qui se fait ailleurs, hein. Je veux dire dans les pays que j'ai cités. Pour finir, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que ça attire l'attention sur un terme qu'on emploie aussi beaucoup maintenant, c'est ce qui rejoint ce que j'ai dit au début en propos liminaire, la micro-éducation. Toutes les occasions sont bonnes pour travailler dans la micro-éducation, c'est vrai. Comment on gère, j'ai dit, la ville, ce qui se passe au conseil municipal, le rapport qu'on a avec les habitants, comment ça se passe dans le quartier. Bon, je ne sais pas, moi, les comités de commerçants, une année, on m'a demandé avec d'autres d'expertiser, quand c'était le début d'Euralille, vous voyez le gros truc à Lille, Euralille. Donc j'ai passé une semaine de 5h du matin à minuit à circuler avec quelques-uns, et puis on avait un rapport à rendre sur la sécurité et la convivialité d'Euralille. C'était passionnant parce que des millions de personnes passent par là dans l'année. Et il peut tout y avoir, du grand banditisme à... Et qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui marchait ? C'est-à-dire, ils ont recruté 200 personnes qui sont des vigiles, mais en civil, qui circulent, qui repèrent, qui vont parler avec les bandes de jeunes qui, on l'avait repéré par des statistiques, des observations et les faits de police, viennent à certaines heures de certains quartiers. Et je vous cite un truc très simple qui participe de la micro-éducation. Il y avait par exemple un quartier particulièrement chaud et des bandes organisées de ce quartier qui arrivaient tous les matins vers en fin de matinée, quoi, dans ces eaux-là, hein, parce qu'ils n'étaient pas levés avant, comme disait un copain à moi. Et c'est vrai qu'ils arrivaient, et l'idée, ça a été de quoi faire ? D'envoyer une équipe de travailleurs sociaux, comme faisaient les Scandinaves dans le temps, dans ce quartier, travailler avec eux. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce quartier pour qu'ils ne viennent pas à Euralille à 15-20 chercher des noises ou s'occuper ? Alors, si on ne se pose pas ces questions, on ne se pose plus de questions. Alors voilà, pour moi, ce que je viens de dire, c'est pas loin de la... c'est ce que j'ai tiré de la pédagogie Freinet et de la pédagogie institutionnelle. Donc ça participe, vous voyez, j'ai fini sur la ville, ou Euralille. Pour moi, c'est... Jean Auril dit comme ça, hein. Pédagogie, psychothérapie, c'est la même chose. Merci.